Chapitre 7. Le petit Ellis et son furoncle. Durant mon deuxième trimestre à St. Peter's, j'attrapais la grippe et fus envoyé à l'infirmerie où la redoutée surveillante exerçait une autorité suprême. Dans le lit voisin du mien se trouvait un petit garçon de 7 ans, Ellis, que j'aimais beaucoup. Ellis se trouvait là parce qu'il était affligé d'un énorme furoncle enflammé à l'intérieur de la cuisse. Je l'avais vu, il était de la taille d'une prune et à peu près de la même couleur. Le docteur arriva un matin pour nous examiner, suivi de la surveillante. Sa monumentale poitrine se gonflait sous sa blouse blanche à midonnée et du coup, elle me rappela un tableau que j'avais vu un jour, représentant un quatre-mâts à goélette fuyant sous le vent avec toute sa toile. « Quelle est sa température aujourd'hui ?» demanda-t-il en me montrant du doigt. « Un peu plus de 37,5 », répondit la surveillante. « Il est ici depuis assez longtemps, » dit le docteur. « Envoyez-le en classe demain. » Puis il se tourna vers Ellis. « Enlève ton pantalon de pyjama, » dit-il. C'était un tout petit bonhomme chauve avec des lunettes cerclées d'acier. Il m'inspirait une profonde terreur. Ellis enleva le pantalon de son pyjama. Le docteur se pencha pour examiner le furoncle. « fit-il, pas bien beau, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on s'occupe de ça, pas vrai, Ellis? Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Ellis, tout tremblant. « Ne t'inquiète pas, » dit le docteur. « Reste gentiment couché et ne fais pas attention. » Le petit Ellis se recoucha, la tête sur l'oreiller. Le docteur avait mis son sac par terre à la tête du lit et il s'agenouilla à côté pour l'ouvrir. Ellis, même en redressant la tête, ne pouvait voir à quel manège se livrait le docteur, caché par l'extrémité du lit. Mais à moi, rien n'échappait. Je le vis sortir, une espèce de scalpel avec une longue poignée d'acier et une petite lame pointue. Accroupi au pied du lit d'Ellis, il tenait l'instrument de la main droite. « Donnez-moi une grande serviette, » dit-il à la surveillante. La surveillante lui tendit une serviette. Toujours accroupi au pied du lit et invisible pour Ellis, le docteur déplia la serviette et l'étala sur la paume de sa main gauche. Dans la droite, il tenait le scalpel. Ellis n'emmenait pas large. Soupçonneux, il essaya de se relever sur les coudes pour mieux voir. « Reste couché, Ellis, » dit le docteur. Et au moment même où il prononçait ces mots, il bondit du bout du lit comme un diable hors de sa boîte et jeta la serviette grande ouverte droit sur le visage d'Ellis. Presque à la même seconde, il détendit le bras droit et plongea la pointe de son scalpel au cœur même de cet énorme furoncle. Il imprima à la lame une petite torsion et la retira avant même que le malheureux petit garçon ait pu dégager sa tête de la serviette. Ellis poussa un hurlement. Il n'avait pas vu le scalpel entrer, il ne le vit pas ressortir, mais il le sentit. Et il hurla comme un porc qu'on égorge. Je le vois encore, se débattant pour se débarrasser de la serviette. Lorsqu'il en émergea, les larmes ruisselaient sur ses joues et ses grands yeux bruns fixés sur le docteur trahissaient la plus violente indignation. « Ne faites donc pas tant d'histoires pour rien !» dit la surveillante. « Appliquez un pansement avec une bonne couche de pommade, mademoiselle, » lui dit le docteur. Et il sortit de la salle. Je ne pouvais pas vraiment reprocher au docteur son attitude. Je trouvais qu'il s'était conduit assez habilement. On attendait de nous que nous supportions stoïquement la douleur. Les anesthésiques et les piqûres calmantes n'étaient guère utilisées en ce temps-là. Les dentistes en particulier ne s'en servaient jamais. Mais je doute fort que vous soyez particulièrement heureux de nos jours si un médecin vous jetait une serviette sur la tête et se ruait sur vous avec un couteau.